Et bonne soirée, 19h04 sur Radio Côte-Varoise. Tous les mois, dans le cadre de son partenariat avec la mission locale Corail qui regroupe 7 communes, hier, La Croix-Carquerin, La Londe, Colobrière, Le Lavandou et Bormes-les-Mimosas, Radio Côte-Varoise accueille des jeunes en insertion de 16 à 25 ans ou jusqu'à 29 ans en cas de handicap. Des jeunes qui réalisent leur propre émission ayant pour thématique leur passion ou autre sujet concernant les concernants. Ce vendredi soir, nous serons avec Ombline Dortombe, conseillère en insertion professionnelle au sein de la mission locale chorale d'hier. On retrouvera Ombline un peu plus tard. Et puis, plus proche de nous, Paul nous parlera de sa passion du chant avec la voix, l'outil dont on se sert tous les jours pour ceux qui ont la faculté de parler. Et puis, on va parler de voix, le voix de chanteur de groupe, de K-pop. K-pop, là, c'est la passion d'Alexandre que nous allons retrouver tout de suite. Dans un premier temps, Alexandre nous fait part donc de sa passion pour la K-pop. Vous ne connaissez pas la K-pop ou pas trop? Eh bien, on va tout vous dire tout de suite avec Alexandre, premier intervenant donc de cette émission Fréquence 16-25, comme tous les mois sur Radio Côte-Varoise avec la mission locale Corail. C'est jusqu'à 20h. Voici Alexandre pour nous parler de sa passion.
Vous avez sûrement connu les boys band et les girls band, comme les Spice Girls ou les One Direction. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une musique qui a créé des légendes dans leur pays, la K-pop. Ce mot vous dit peut-être quelque chose grâce à K-pop Demon Hunters, BTS ou encore Blackpink. I'm not that easy to tame. You should see me under these lights, all my tears turn to ice. La K-pop, ça veut dire Korean pop, donc la pop coréenne. Elle vient de Corée du Sud et mélange plusieurs styles comme le rap, la pop, le R&B ou encore l'électro-dance qu'on appelle souvent EDM. Tout commence réellement en 1992 avec Suteji and Boys et leur chanson I Know. Ce groupe a révolutionné la musique coréenne en mélangeant danse, rap et influence américaine. Après leur succès, plusieurs grandes agences se créent. On les appelle les Big Three, SM Entertainment, JYP Entertainment et YG Entertainment. Ces agences forment de jeunes artistes pendant des années. On appelle ça des trainees, donc des apprentis idoles. Une idole, c'est une star de K-pop qui chante, danse et parfois joue aussi dans des séries ou travaille dans la mode. Dans les années 90 et 2000, plusieurs groupes deviennent légendaires comme H.O.T. avec Candy, Girls' Generation avec G, Big Bang avec Fantastic Baby, EXO avec Growl ou encore Wonder Girls avec Nobody.
Vous
La K-pop est connue pour ses chorégraphies très précises, ses clips impressionnants et ses comebacks. Un comeback, en K-pop, veut simplement dire une nouvelle sortie de chanson ou d'album. Il existe aussi les fandoms, c'est-à-dire la communauté de fans. Par exemple, les fans de BTS s'appellent les ARMY. Mais la K-pop a aussi un côté plus difficile. Les idols s'entraînent parfois depuis l'âge de 11 ou 12 ans, avec énormément de pression et des journées très longues. Heureusement, certaines choses changent aujourd'hui. Les artistes parlent davantage de santé mentale et participent plus à l'écriture de leurs chansons. Et actuellement, certains groupes et artistes très populaires sont par exemple EXO avec Crown, Kiss of Life avec Who Is She, ou encore Yena avec Catch Catch. Hey. Catch my heart, catch my heart, baby. Catch my heart, catch my heart, baby. Aujourd'hui, la K-pop dépasse largement la Corée du Sud. Elle influence la mode, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la skincare partout dans le monde. Et aussi, les textes parlent parfois de la pression dans les écoles, d'amour ou juste pour s'amuser. Donc ce n'est pas seulement pour les adolescents, mais pour tout type de personnes. J'espère vous avoir appris beaucoup de choses et merci de m'avoir écouté.
Finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden.
Et nous sommes de retour sur Radio Côte-Varoise pour la suite de cette émission Fréquence 1625, émission mensuelle produite par les jeunes de la mission locale chorale de Hyères qui regroupe 7 communes, on vous les rappelle, Hyères, Lacro, Carquerane, Lalonde, Colobrière, Le Lavandou, Bormes, Les Mimosas. Alors après avoir découvert la passion d'Alexandre, la K-pop tout à l'heure, eh bien nous allons passer un autre jeune qui est pris en charge par la mission locale Corail de Hyères. Il s'agit de Paul, 22 ans, qui a une passion, le chant, la voix donc, la voix, l'outil dont on se sert tous les jours pour ceux qui ont la chance eh bien, de s'en servir. La voix, un véritable outil, corde vocale, technique, extrait de chanson avec une des grandes chanteuses françaises, Lara Fabian, enfin francophone si je puis dire. Paul, on le retrouve tout de suite, nous parler de sa passion. Paul, on démarre avec cet outil qu'on pourrait croire banal, mais non, pas du tout. La voix nous sert à plein de choses. Et on démarre avec les présentations, Paul.
Alors oui, je me présente, je m'appelle Paul, j'ai 22 ans, je suis passionné de chant depuis l'âge de 16 ans. J'ai pratiqué en fait complètement par hasard le chant, parce que dans ma famille, on n'est pas une famille de musiciens. Et je suis tombé amoureux de cette passion. Je pensais bien faire les choses et avoir compris directement les secrets de la chanson, mais heureusement, il n'existe pas d'enregistrement de l'époque qui témoigne de mon chant, parce que c'était pas du tout ça. Mais voilà, maintenant, ayant plus d'expérience, je tenterai de vous apporter des informations utiles pour votre propre usage de votre voix. Et voilà, on va pas plus tarder et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, selon plusieurs études scientifiques publiées dans la revue Nature Communication, la communication vocale chez les animaux remonterait à plus de 400 millions d'années. Donc, bien avant les humains, en fait, certaines espèces utilisaient déjà des sons pour prévenir d'un danger, attirer un partenaire ou communiquer avec leur groupe. Chez les humains aussi, la voix d'abord servit à exprimer des émotions et à communiquer avant d'être utilisée comme un langage structuré ou un art comme le chant qu'on connaît aujourd'hui. On comprend alors que la voix servait surtout à survivre. On le voit dans certains réflexes que l'on a encore aujourd'hui. Et je vais vous laisser un petit temps de réflexion. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, un héritage que l'on tient de nos ancêtres et donc qui persiste toujours dans notre usage de la voix qu'on en fait aujourd'hui? Eh bien, moi, je pensais au cri. Alors, selon des philosophes du XVIIe siècle, tels que René Descartes et de la Mettrie, il y avait déjà des réactions, en fait, dites mécaniques du corps, et notamment chez l'animal. Il compare, en fait, le corps à une machine, et par exemple, à l'horloge, à des machines qu'ils pouvaient avoir dans leur quotidien, puisque voilà, il y a plein de connexions qui sont faites dans notre corps et qui expliquent plein de phénomènes, etc. Donc, par exemple, quand on essaie d'effrayer quelqu'un, que la personne hurle à la mort, on sait tout de suite, par son cri, que notre tentative de l'effrayer a été un succès. La personne a bel et bien eu peur pour sa vie. Descartes appelait ça un mouvement mécanique du corps, réalisé pour se protéger d'un danger extérieur et soudain. Donc, faut-il avoir du talent pour chanter? Eh bien, selon Franziska Vogt, donc qui est une directrice d'un institut de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage, je cite, « Les enfants peuvent apprendre plusieurs langues en même temps. » Certains linguistes expliquent que tout enfant serait capable de parler une deuxième, voire troisième langue, et que le cerveau de l'enfant est en capacité de comprendre et maîtriser une telle complexité. Non pas parce qu'il en est plus capable qu'un autre, mais plutôt parce que contrairement à un autre enfant, il aura ce besoin et un plaisir certain à pratiquer quotidiennement. Mais cette pratique est aussi en fait due aux parents, au milieu culturel, social, économique. Bien sûr qu'un parent qui ne parle une seule langue ne pourra pas transmettre à son enfant un héritage d'autres langues. La plupart des personnes découvrent leur passion durant l'enfance. Et donc, on pourrait appliquer ça au chant. En fait, le cerveau se développe, et surtout dès l'âge de 0 à 6 ans, on est en capacité d'emmagasiner un nombre phénoménal d'informations et de comprendre toute leur complexité de manière beaucoup plus spontanée qu'à l'âge adulte. Ainsi, et il serait d'autant plus normal que l'on considère un enfant talentueux si ce dernier a suivi une éducation spécifique dès sa plus tendre enfance, en ayant des parents professionnel dans un domaine spécifique. Par exemple, voilà, si c'est un enfant qui grandit en Italie, que ses parents sont chanteurs d'opéra et qu'il y a une culture spécifique, il y aura beaucoup plus de chances que cet enfant soit passionné pour ce domaine. Donc voilà, je tenais juste à venir questionner la croyance du talent inné ou du don que l'on a dans notre imaginaire collectif. Bien sûr, il y a quand même des aspects importants à souligner. Notre morphologie et tout ce qui constitue notre être fait que du coup, on a des caisses de résonance qui nous sont propres. Le son vibre dans notre corps de manière singulière, ce qui fait que bien sûr, notre voix peut être plus ou moins belle d'un point de vue général, d'un avis extérieur. Voilà, mais ça ne devrait pas nous empêcher de chanter et de parler tout simplement, parce que ça reflète qui on est. Donc, je vais poursuivre sur l'importance du vrai en chant. Ce qui compte vraiment dans le chant, c'est l'émotion que l'on transmet. Par exemple, Lara Fabian, ma chanteuse favorite, explique qu'elle cherche toujours à aller, je cite, « à l'endroit de son ressenti le plus profond » lorsqu'elle interprète. Cela signifie que le chant n'est pas seulement une performance technique, mais bel et bien une manière de transmettre quelque chose de vrai. On peut chanter juste, sans réellement toucher le public, tandis qu'à l'inverse, une voix imparfaite peut provoquer une forte émotion lorsqu'elle paraît sincère et authentique. On remarque d'ailleurs que certains artistes, comme Lara Fabian, utilisent parfois une voix plus proche de la parole dans leur interprétation. Cette simplicité crée une forme de proximité avec l'auditeur, l'impression que les mots viennent directement du cœur, sans filtre et ni artifice.
Je me souviens de tout, comme si c'était hier, de tes yeux, de ta bouche et de la vue sur la mer. Je me souviens de nous et comme on était beau, ton prénom dans mes prières et ton souffle sur ma peau. Le jour où je t'ai perdu, il te manquait de l'espace. Si seulement je l'avais vu, je t'aurais laissé la place.
On retrouve également cette idée dans des formes d'expression comme le slam, où l'émotion est transmise de manière très directe, presque sans filtre. Cela montre que le chant peut prendre différentes formes, mais pour qu'il fasse sens, il y a un réel désir d'interprétation. Plusieurs recherches en psychologie de la musique montrent que l'impact émotionnel d'un chanteur repose en grande partie sur sa capacité à transmettre une émotion sincère et à faire ressentir quelque chose au public. Le chercheur Emery Schubert explique notamment que l'expérience émotionnelle de l'auditeur dépend fortement de l'émotion exprimée par l'interprète. Dans cette perspective, chanter ne consiste donc pas uniquement à produire des notes justes ou à maîtriser une technique vocale, mais aussi à raconter une histoire et à incarner pleinement le sens des paroles. Plusieurs études montrent d'ailleurs que la compréhension du texte chanté influence directement l'émotion ressentie par les auditeurs. Plus l'interprète semble comprendre et vivre ce qu'il chante, plus la performance est perçue comme authentique et touchante. Les recherches sur la voix chantée soulignent également que les chanteurs sont souvent évalués selon leur capacité à habiter émotionnellement un texte. Autrement dit, ce qui peut donner l'impression qu'un artiste est particulièrement talentueux viendrait aussi de sa présence émotionnelle, de son implication dans l'instant et de sa capacité à transmettre une expérience humaine sincère au public. Ainsi, la technique vocale peut être travaillée et développée grâce à l'apprentissage et à l'environnement. Mais elle ne suffit pas, à elle seule, à expliquer pourquoi certaines voix touchent davantage que d'autres. Je vais donc maintenant passer vraiment au cœur de la voix et vous parler de la technique pour essayer de vous transmettre des outils qui puissent vous aider dans votre usage tout simplement de votre propre voix. Alors, tout d'abord, pour que cette authenticité puisse s'exprimer librement et sans contrainte technique, il faut que le corps devienne un allié. C'est ici que la machine humaine doit être parfaitement huilée, par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Voyons comment comprendre et préparer notre outil, la voix. Alors tout d'abord, comme tout instrument, il faut savoir que le chanteur est considéré comme un athlète de la voix, et donc qui dit athlète dit échauffement, pour ne pas se blesser. Donc on va d'abord en fait venir échauffer notre corps de la tête aux pieds, Donc commencer par le visage et la mâchoire. Le but, c'est vraiment de réveiller toutes ces connexions nerveuses qui sont présentes dans notre corps. Donc on va venir par exemple étirer la bouche. Et donc je vous invite à le faire si vous n'êtes pas en voiture. Donc voilà. Et on va masser en fait nos tempes. Vous venez avec vos deux mains respectives et des deux côtés. Massez vos tempes. Ensuite, on va descendre en dessous, donc entre l'oreille et l'œil. Vous allez sentir votre os de la mâchoire supérieure. On va venir masser aussi. Le but, c'est de trouver en fait une certaine ouverture, puisque l'ouverture en chant est très importante pour qu'il y ait de l'espace pour les vibrations et donc pour que le son puisse résonner davantage. On descendra ensuite vers le cou et la nuque. Donc d'abord le cou, on va venir pincer, donc tirer délicatement notre peau, donc sur l'appareil où se situent les cordes vocales, à savoir que les cordes vocales sont des muscles, donc on a deux cordes vocales et elles sont situées à l'horizontale dans notre gorge. Alors pour le cou et la nuque, on va venir placer notre main sur notre cou et étirer la peau délicatement pour réveiller toute cette zone où loge le larynx, qui est l'organe de la phonation. Vous étirez bien légèrement la peau, du cou de haut en bas, et on va ensuite passer à la nuque. Donc, vous allez venir masser délicatement la peau, donc avec vos deux mains, de haut en bas, une fois de plus. Donc, vous commencez par derrière les oreilles, descendez vers la nuque, et arrivez jusqu'à vos omoplates. On va passer ensuite aux bras et aux mains. Donc, dans une leçon de chant, on préconise en fait de venir palper les bras, donc respectivement un bras puis l'autre, de descendre jusqu'aux phalanges et de venir appuyer sur chaque phalange de manière singulière. Donc une fois que vous avez effectué ce travail sur vos deux mains et sur vos deux bras, on descend vers le bas du corps. Donc on va venir en fait réveiller le bassin. On va faire comme des mouvements de hula hoop, pour donc vraiment venir réveiller toute cette partie du corps en fait qui est essentielle pour le chant, pour venir engager notre corps, donc nos abdominaux, et en fait ça va permettre de ne pas forcer sur la voix, sur la gorge. Donc voilà, on va faire pareil, on va masser ensuite nos jambes comme on a fait pour nos bras, et ensuite pour réveiller nos orteils, on va venir lever les talons. Donc, je vais vous donner un conseil que beaucoup de chanteuses recommandent. Il s'agit de la pratique du Yin Yoga pour compléter la préparation que l'on vient d'expliquer. Contrairement à un yoga dynamique, le Yin Yoga est une pratique douce où l'on tient des postures immobiles pendant plusieurs minutes. Cela permet de cibler les tissus conjonctifs profonds, les fascias, les tendons, les ligaments, et de relâcher complètement les muscles et en développant une conscience corporelle et respiratoire fine, essentielle pour le chant. Je vais passer ensuite à la posture et la respiration diaphragmatique. Une fois le corps délié, on se redresse pour travailler le moteur du chant, c'est-à-dire le souffle. Donc la posture, c'est quoi la bonne posture en chant? Alors il faut que vous visualisiez votre bassin et votre colonne bien ancrée pour ouvrir l'espace de résonance à l'intérieur de vous. Imaginez que vous avez une balle imaginaire posé au fond de la bouche, ce qui soulève naturellement le voile du palais. On peut le sentir en plaçant notamment la pointe de la langue vers le fond de la gorge en haut, en continuité du palais dur. Alors, le fonctionnement du diaphragme. Il faut savoir que le diaphragme est un grand muscle en forme de dôme situé à la base de notre cage thoracique, sous les poumons. À l'inspiration, le diaphragme se contracte et descend, ce qui pousse les organes abdominaux vers le bas et fait gonfler le ventre comme un ballon. À l'expiration, il remonte doucement. On va chercher en fait à contrôler cette remontée. Donc il y a des exercices pour que vous puissiez localiser votre diaphragme, notamment le son tss, tss. Lorsque vous réalisez ce son, vous allez sentir un engagement donc entre votre nombril et vos pectoraux, et donc il s'agit de la contraction de votre diaphragme. Vous pouvez placer vos mains au niveau du creux de l'estomac ou des basse-côtes pour sentir ce sursaut. Pour guider votre corps, faites ce geste. À l'inspiration, descendez vos mains vers le sol pour mimer le mouvement de descente que votre diaphragme doit effectuer. Pendant ce processus, La poitrine ne doit pas se gonfler, du moins le moins possible, pour éviter les tensions dans le haut du corps. Vous aurez donc l'image du ballon qui se gonfle, des côtes qui s'écartent et du bas du dos aussi qui prend de l'air. Je vais passer maintenant au placement de la voix et l'ancrage. Si vous sentez que vous forcez sur votre voix ou que votre gorge se serre, c'est le signe que vous placez votre voix trop haut. Une surtension au niveau du larynx se crée. L'alignement larynx-diaphragme est important à comprendre. Le larynx ne doit pas monter excessivement vers le menton quand vous chantez. Il doit rester bas et détendu, aligné avec le mouvement d'ancrage du diaphragme. Vous avez notamment un exercice super à réaliser, qui est celui de la paille. Vous allez prendre un verre d'eau, une paille, et en fait, vous allez souffler tout simplement dans votre verre. Le but est d'avoir un dosage de bulles, une fréquence de bulles régulier. Ce qui signifie en fait que vous arrivez à maîtriser votre souffle. Et donc vous voyez, si vos bulles sont irrégulières, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas assez bien l'expiration que vous êtes en train de faire. Il engage automatiquement vos muscles abdominaux profonds pour soutenir le son, tout en relaxant instantanément le larynx. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles et que vous êtes autant que moi passionné par la voix maintenant. Et je vous dis maintenant, tous à vos micros. Merci.
Et autre intervenante dans cette émission Fréquence 1625 de ce vendredi 29 mai 2026, il s'agit de Ombline Dortombe qui est conseillère en insertion à la mission locale chorale d'hier, la mission locale chorale d'hier qui regroupe, je vous le rappelle, 7 communes sur le bassin Yarrois, hier, Lacroix, Carquéran, Lalonde, Colobrière, Le Lavandou et Bormes-les-Mimosas. Chaque mois, Radio Côte Varoise, partenaire de la mission locale chorale, eh bien, propose à ces jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 29 ans en cas de handicap de venir faire une émission de radio, de parler de leur passion et de leur projet de vie pour la suite de leur parcours. On retrouve tout de suite Ombline Dortombe nous parler des nouveautés en matière d'emploi, de formation que les jeunes vont pouvoir découvrir et avoir accès au sein de la mission locale chorale d'hier. Ombline Dortombe.
Alors la mission locale propose une offre d'accompagnement global à la recherche d'emploi pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. On adapte aux différents profils des jeunes. Donc, qu'ils soient mineurs, diplômés ou pas, avec ou sans permis de conduire, ou encore qui bénéficient d'une RQTH, c'est-à-dire une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. On prend aussi en compte leur représentation du travail et leur rapport au travail, leurs craintes, leur motivation, leur centre d'intérêt, leur capacité en termes de savoir-être aussi, et puis leurs compétences. En fonction de tout ça, on arrive à définir s'ils sont, comme on dit, plus ou moins proches ou éloignés de l'emploi, c'est-à-dire aptes ou pas à prendre et à tenir un emploi dans la durée. On essaye vraiment d'être au plus proche des jeunes et de s'adapter au cas par cas. On va ensuite travailler donc sur les freins et les contraintes de chacun au travers d'ateliers, je reviendrai dessus après, de stages, de visites d'entreprise. On va aussi travailler le CV. On va pouvoir utiliser le réseau de parrainage et la mise en relation, bien sûr, avec notre réseau de partenaires, c'est-à-dire les entreprises, les agences d'intérim, les chantiers d'insertion. Donc, si je reviens un petit peu plus en détail sur ce que je disais à l'instant, en termes d'ateliers, on en a beaucoup à disposition pour les jeunes, en communication, par exemple, coaching. On a l'atelier Look Pro aussi, donc comment s'habiller et la posture aussi à tenir face à un recruteur. Les contrats de travail, donc savoir lire une fiche de paie, ou encore le fameux pitch, c'est-à-dire le petit discours qui va durer une ou deux minutes de présentation face à l'employeur. Ça peut être aussi le pitch sur un CV, la phrase d'accroche comme on dit. Ensuite, les visites d'entreprise. Dernièrement, on a eu la visite d'Alma Bouquet, de Bellambra aussi, et là prochainement de l'hôpital René Sabran, qui permettent de découvrir la structure, les différents métiers au sein de l'établissement, et puis de pouvoir donner aussi un CV ou même passer un entretien à l'issue de la visite. Donc c'est vraiment faire baigner le jeune dans le monde professionnel. Ça peut aussi déboucher sur des stages, ces visites d'entreprise, On a régulièrement des jeunes qui demandent des stages à l'issue, qui peuvent être acceptés. Les stages, donc, de quelques jours jusqu'à 2 semaines maximum, mais renouvelables, hein, 2 semaines également. Et ces stages qui vont permettre de découvrir un métier, mais aussi de sécuriser le projet professionnel du jeune, voire d'initier un recrutement. Donc, très important, on les incite beaucoup à faire ces stages, parce que aussi c'est valorisant sur le CV, ils peuvent ajouter des compétences suite à ça. Et puis, ça fait du réseau, le fameux réseau professionnel. Ensuite, je parlais du parrainage tout à l'heure. On a un large réseau de bénévoles. Donc, c'est vraiment des personnes engagées dans cette mission de manière volontaire, qui ne sont pas rémunérées, souvent à la retraite, et qui ont un domaine d'activité bien précis. Donc, ça peut être l'armée, ça peut être le commerce à la vente, ça peut être la communication, le paysagisme, le jardinage. Donc, on va orienter nos jeunes vers un parrain qui a le secteur d'activité qui intéresse le jeune. Et ce parrain va recevoir le jeune et ils vont travailler ensemble. Ben, le CV, ils vont revoir, je pense, un petit peu plus ensemble et surtout la simulation d'entretien. L'intérêt, en fait, d'un parrain, contrairement à un conseiller comme nous, ça va être qu'il suit seulement 2-3 jeunes maximum, alors que nous, on en a des centaines à suivre. Donc, ils peuvent leur accorder plus de temps. Et il leur fait bénéficier aussi de son réseau de contacts. Donc, les personnes avec qui ils ont travaillé auparavant, d'anciens salariés, des amis patrons, etc. Je voulais aussi donner un petit mot sur le dressing solidaire. Alors, le dressing, il a été fondé il y a 1 an. Et on a des vêtements, des accessoires qui ont été donnés par des personnes ou des magasins et qui permettent aux jeunes de pouvoir se faire une garde-robe. Ça peut être autant individuel que professionnel et d'aller plus sereinement aux entretiens d'embauche ou même un entretien de formation. Alors, une action toute récente aussi qu'on a mise en place, c'est le témoignage d'employeurs qui viennent au sein de la mission locale pour présenter leur parcours, leur métier, partager avec les jeunes leur expérience. Et idem, à l'issue, ils peuvent proposer des stages, voire passer un entretien pour un éventuel recrutement. Ça plaît beaucoup parce que c'est du face-à-face, c'est du réel. Et puis ça se fait en douceur, donc ça met le jeune en confiance face à l'employeur. Un peu comme les job dating inversés, ou etc. C'est vraiment des expériences concrètes pour les jeunes. Alors ensuite, parfois, le jeune, il n'est pas prêt à l'emploi. Comme je disais tout à l'heure, les jeunes qui sont peut-être un petit peu plus éloignés de l'emploi, ou même tout simplement qui veulent se réorienter, ou encore se qualifier parce qu'ils ne l'étaient pas jusque-là, ils vont se tourner vers la formation. En tout cas, on va, nous, en parler avec eux, étudier le projet et les orienter vers différents types de formations. Donc la formation en France, c'est large et il y a beaucoup de possibilités, que ce soit en termes de secteur, de diplôme, mais aussi de financement. Alors, je ne vais pas tout détailler parce que c'est très large, mais on va en revenir surtout sur 3 possibilités qui existent actuellement. Il y a le CPF, il y a les financements de France Travail ou de la région, et il y a également les POI, qui sont la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc, pour commencer par le CPF, qui est assez connu maintenant, c'est donc le compte personnel de formation. Les jeunes qui ont déjà travaillé, donc qui ont cotisé pour ça et ouvert des droits, ils vont pouvoir utiliser ce CPF. Ils vont créer leur compte, aller voir sur ce compte quelle formation existe et si elle peut être prise en charge par ce CPF. Et ensuite, demander un devis et voir si l'organisme de formation est OK. Et donc utiliser ces droits en fait, qu'ils ont hein, pour financer leur formation. Si ce n'est pas suffisant, ils peuvent également demander un abondement à France Travail. Donc tout ça, on le fait avec eux. On les accompagne là-dedans parce que ce n'est pas toujours simple pour eux. Ensuite, on a les formations financées. Donc ça va être surtout des formations sur des métiers en tension. Alors ce qu'on appelle les métiers en tension, ça va être des métiers tels que, c'est les métiers qui recrutent, hein, donc tels que le BTP, l'hôtellerie-restauration, l'animation, la petite enfance, l'aide à la personne. On va pouvoir orienter ces jeunes vers des formations financées. Donc, on vérifie qu'elles soient bien financées. Si c'est le cas, on monte le dossier avec eux. On prend contact éventuellement avec l'organisme de formation aussi et on les prépare par l'intermédiaire de l'entretien à l'entretien de formation. Alors, ensuite, on a également les POEI, donc la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc, on incite vraiment de plus en plus et les employeurs d'un côté et les jeunes de l'autre à s'engager dans cette démarche qui est tout bénef des deux parties, puisqu'en fait, ça va être une aide à l'embauche par l'employeur qui lui permet aussi de former le jeune au métier pour lequel il va le recruter. Donc, l'employeur forme le jeune au sein de son entreprise et ensuite, il s'engage à le recruter ensuite dans ses effectifs. Ça permet aux jeunes un démarrage en douceur dans le monde de l'entreprise, l'acquisition aussi de compétences, et ça permet aux recruteurs de bénéficier d'une aide à la formation par l'État. Une chose sur laquelle je voudrais revenir, on peut orienter donc vers de nombreuses formations à la base via des écoles ou des organismes de formation. Donc les écoles, ben, ça va être par exemple en CAP, en BTS ou même à l'université. En initiale, c'est-à-dire ce sera surtout des stages hein, au sein de la formation, ou en alternance. Et après, on a aussi les organismes de formation, la plupart du temps privés, donc payants, qui vont donner des certifications qualifiantes ou pas aux jeunes, ou des titres professionnels. Là, encore une fois, ça peut être en initiale ou en alternance. Alors, dans ce dernier cas, idéalement, vu qu'il s'agit d'organismes payants, il vaut mieux trouver un contrat d'apprentissage. Donc, on va aider le jeune à la recherche d'un contrat d'apprentissage et il pourra donc être rémunéré pendant sa formation et sa formation sera financée.
Et merci à Ombline Dortombe, donc conseillère en insertion au sein de la mission locale Corail de hier. Prochain rendez-vous avec l'émission Fréquence 16-25, et bien fin du mois de juin avec de nouveaux jeunes qui viendront nous parler de leur passion et de leur projet de vie, donc avec la prise en charge de leur parcours en partie par la mission locale Corail de hier qui, je vous rappelle, regroupe 7 communes hier, Lacro, Carqueran, Lalonde, Colobrières, Le Lavandou et Bormes-les-Mimosas. Passez une belle soirée avec Radio Côte d'Aroise et n'oubliez pas, ce podcast est disponible sur notre site radiocotevaroise.fr.